Mardi 20 mars 2012, bienvenue à l'émission L'Aérospatiale, animée par Julie Gagné, c'est-à-dire moi-même, avec Jacques Juniac à la mise en onde. Aujourd'hui, pour cette première journée de pré-été, hein, on peut presque dire ça, aux températures qui fait, j'ai même vu un enfant jouer en petite short dehors tout à l'heure. Ben, on a toutes sortes de choses à l'émission, notamment Lise Vézina viendra nous parler de son exposition « Tendre le tissu du temps » qui est présentée à Engram, dans le complexe Méduse. On discutera aussi avec notre chroniqueuse Catherine Boivin qui nous parlera de l'exposition « Rose flamand et grand méchant rouge » qui est présentée à la Galerie Morgan Bridge, une exposition de Fanny Ménard. Également, on aura l'occasion de discuter avec Mathieu Doyon et Simon Rivet du duo Doyon-Rivet autour de leur exposition « Doyon-Rivet dévorait hors vidéo », donc qui fait peut-être un petit pied de nez ou encore une petite satire sur l'art vidéo. C'est présenté, bien entendu, à la bande vidéo. On fera le tour de l'actualité à tout le moins un bref aperçu de l'actualité en art visuel avec Raymond Poirier, Servus de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Une petite nouvelle comme ça pour nous tenter?
Mais en fait, il y a une exposition à Washington qui soulève une grande question. Est-ce que les jeux vidéo sont de l'art? Alors, on va vous soumettre de quelle manière il se pose cette question-là dans quelques instants.
Puis après, on pourra débattre dans notre tête allègrement également.
Ou autour de la table, un souper et autres. Il y a plein d'occasions de débattre.
Effectivement. Et puis, ben, on va écouter aussi Simon Roy qui nous présentera sa sélection audio. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Avec une journée comme ça, le moral y est, hein?
Ben oui, c'est dur de pas sauter partout. Là. C'est, je crois que c'est le printemps, là, on dirait.
Oui, effectivement, je pense même que c'est aujourd'hui.
C'est ça, j'ai trouvé de la musique qu'il y a pour les auditeurs, par contre, qui est vraiment pas dans cette ambiance-là.
Ben quand même, ça se peut qu'il y a une tempête, hein, fait qu'il faut pas trop être enthousiaste.
Oui, c'est ça. Peut-être que les gens qui écoutent l'émission Balado du Fillon, ça va peut-être plus fonctionner pour eux au moment où est-ce qu'ils vont écouter l'émission. Donc, c'est un artiste que j'ai absolument, encore une fois, aucune information. Je sais tout simplement que ça vient de la Pologne. J'ai aucune idée si c'est un homme ou une femme. C'est du nom de Laiko. Donc, vraiment un album que j'ai adoré, qui se prête peut-être pas aux extraits comme on fait à l'émission. Je crois qu'il faut écouter l'album vraiment calmement, donc d'un bout à l'autre pour se laisser bercer. C'est l'album Overtone, donc l'artiste, c'est comme un peu ses impressions à propos des tremblements de terre du tsunami au Japon l'année passée. Donc ça donne un peu le ton pour l'album. Musique assez planante, des ambiances mystérieuses, un peu cauchemardesques par bout. Donc c'est un album vraiment mystérieux que j'ai vraiment adoré. Une musique peut-être plus pour la lecture, je recommanderais pas ça pour les centres d'achat, disons.
OK, ça met dans un beat un peu trop smooth.
Oui, c'est ça. C'est publié sur l'excellente étiquette Tree Trunk Records, une étiquette qui vient du Midwest américain, mais qui distribue des artistes un peu partout sur la planète. Ils ont déjà plus de 207 albums en téléchargement gratuit, donc pour les auditeurs, je les inviterai à aller faire un tour sur Tree Trunk Records. Il y a vraiment énormément de matériel intéressant.
Puis aussi, ben, on peut toujours retrouver les liens sur le site laérospatiale.wordpress.com justement pour, par la suite, après avoir entendu les extraits, aller écouter l'album au complet.
Oui, c'est ça. Je crois que ça vaut vraiment la peine d'écouter de A à Z, comme on dit.
Ben, Simon Roy, merci beaucoup.
Ben, merci.
Puis on s'en met tout de suite un extrait en oreille. On écoute Shape 6 sur les ondes de CKRL. vient d'entendre un extrait de la pièce Shape 6 de l'album Overtone de Leiko. C'était une suggestion de Simon Roy. Puis, ben, je cède la parole à Raymond Poirier parce que j'ai bien hâte d'entendre parler de jeux vidéo et d'art.
Et sont-ils de l'art? Grande question, indéniablement. Et la réponse serait probablement oui si on se fie aux organisateurs d'une exposition qui vient de s'ouvrir à l'American Art Museum de Washington. Une exposition qui célèbre la créativité des jeux et des artistes qui les conçoivent. Et évidemment, dans un secteur qui, autant ici qu'ailleurs, est en pleine expansion, voire même en pleine explosion. Alors, cette exposition-là raconte les 40 ans d'histoire de ce loisir passé des stands spécialisés aux salons familiaux, avec dessin, interactivité et histoire toujours plus évoluée. C'est pas d'ailleurs la première exposition qui utilise les jeux vidéo, mais par contre, c'est la première qui les présente comme une forme d'art. Il faut dire, autant d'un point de vue cinématographique que d'un point de vue art visuel, les amateurs de jeux vidéo ont toujours tenté de dire, ben regardez, on a là peut-être le 10e ou le 11e art, là, je ne sais pas trop où on en est, et donc d'essayer de les assimiler, de justifier leur assimilation à ces formes-là. Et donc, cette expo-là leur donne des arguments additionnels, donc une expo qui ne porte pas sur l'art dans les jeux vidéo, mais qui porte sur le jeu vidéo lui-même, porteur, donc, de ces réflexions artistiques-là. Donc, on parle d'une exposition qui présente 80 jeux, créé pour 20 systèmes différents de l'Atari des années 70 à la PlayStation 3 actuelle. On les présente comme marqueurs, évidemment, de leur génération, marqueurs de leur époque, et essayer de comprendre l'évolution de ces jeux-là, mais l'évolution à travers le style, le look, les éléments qui accompagnent le jeu, en disant, bah, regardez, les jeux ont évolué un peu à la manière aussi où comme l'art évolue, comme les formes artistiques progressent. Alors, à la limite, si vous avez un voyage prévu à Washington, ça va peut-être valoir la peine de les faire un tour pour voir si, s'ils vous convainquent aussi que le jeu vidéo est effectivement une forme d'art.
À tout le moins, j'imagine qu'on peut aller sur le site internet du musée, puis peut-être des fois, il y a des œuvres qu'on peut apercevoir.
Oui, effectivement, voir un peu. En fait, les œuvres, on parle de Pac-Man, de Super Mario, de Myst, bref, les jeux marquants de leur époque. Et parlant de changement d'époque également, enfin, un petit lien un peu mou vers la prochaine nouvelle. On en a parlé plusieurs fois, Julie, en fait, de la Chine qui prend de plus en plus de place sur le marché de l'art mondial. Il y a un rapport maintenant qui a comme analysé un peu toutes ces données-là et qui est venu à la conclusion, certes surprenante, qu'effectivement, la Chine prend plus de place là, sur le marché de l'art mondial. Alors, c'est un rapport qui s'appelle The Global Art Market in 2010 qui annonce donc que la Chine est devenue deuxième marché de l'art mondial derrière les États-Unis, relégué le Royaume-Uni au troisième rang. Les Chinois, donc, qui sont passés en 8 ans de 0 à 23% de part de marché. Et donc, on dit, ben regardez, selon les tendances qui ressortent de ce rapport, qui analyse les données jusqu'à des années récentes, dans le fond, eh ben c'est normal qu'aujourd'hui, en 2012, et que l'année dernière, en 2011, ben que ça soit effectivement passé aussi de la deuxième place à la première place. On parle littéralement d'une explosion. Et on observe aussi en même temps que, alors que la Chine passe tranquillement et augmente de part, ben les États-Unis, eux, en perdent également. Alors, un rapport qui confirme donc les tendances qu'on avait observées au cours des derniers mois, au cours de la dernière année.
Effectivement.
On revient au Québec, nouvelle qui concerne le ministère de la Culture, des Communications, de la Condition féminine. En fait, c'est une série de projets qui ont été annoncés en lien avec la culture. C'est des éléments, en fait, je dirais, c'est dans notre filière à suivre qu'il faudra les placer pour voir comment ça va progresser. Mais de manière générale, donc, on parle d'un projet qui s'appelle Culture et santé, qui sera coordonné par le CHUM. Donc un hôpital montréalais, et qui vise à favoriser la création de partenariats entre artistes, organismes culturels et le milieu de la santé et des services sociaux. Donc l'idée est de dire que l'art va pouvoir améliorer la qualité de vie et l'environnement des milieux de santé, et donc par extension, bien, favoriser la guérison, favoriser la santé, favoriser également les saines habitudes de vie. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça va s'intégrer, oui. De quelle manière l'art dans les hôpitaux, au bout du compte, dans les systèmes de santé, de quelle façon on va l'intégrer autrement que de placer des tableaux sur les murs, parce que j'ose espérer que ça va aller plus loin que simplement une démarche d'investissement, là, si on parle de mettre en partenariat un peu tout le monde. Parallèlement, il y aura aussi une enquête qui sera amorcée sur l'entrepreneuriat dans le secteur culturel. Ça va être mené par la Fondation de l'entrepreneurship. Donc, ce sera intéressant de voir un peu comment fonctionne le travail dans ce domaine-là. Également, plusieurs projets régionaux qui sont à surveiller, et aussi un chantier gouvernemental en culture aussi qui sera intégré dès avril le prochain. Un chantier qui s'inscrit dans la prolongation de la bonification de la stratégie gouvernementale en développement durable, qui va tenter de voir aussi comment l'art l'art et la culture peut profiter à la société dans un contexte donc de développement durable. Deux petites dernières en terminant. On va rester du côté de Montréal. Nouvelle salle d'exposition qui est ouverte dans la capitale, mon Dieu.
C'est pas facile.
Alors, c'est heure actuelle 2-22. On parle de deux salles d'exposition, une librairie spécialisée, un centre de documentation. Et ça, c'est le regroupement de trois organismes d'art visuel et médiatique. Donc, les locaux ont été inaugurés la semaine dernière. C'est un projet quand même en gestation depuis 1995 qui s'est élaboré donc entre Artex et Vox, centre de l'image contemporaine. Éventuellement, c'est joint également le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. Donc, c'est un projet qui est à l'angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. Donc, si vous passez à Montréal, vous pourrez aller faire un tour dans cette nouvelle galerie, essentiellement ce nouveau centre d'exposition. Et qui plus est, avec le lancement de ce lieu-là, ils ont lancé une initiative bien intéressante, une application iPhone, iPad qu'on peut télécharger gratuitement, qui s'appelle Art Actuel Centre-Ville, qui est un outil qui va permettre aux gens qui ne connaissent pas la capitale, la métropole ou qui y vivent, de localiser les lieux de diffusion, de recherche et de production d'art actuel du centre-ville de Montréal. Alors, ça, je trouve que c'est une belle initiative. Et si vous êtes curieux à Québec de voir un peu qu'est-ce que ça a l'air, cette application-là, bien, vous pouvez la télécharger sur artactuelcentreville.com ou également, évidemment, dans le App Store de Apple. Et en terminant, un petit clin d'œil, enfin, on mettra le lien sur l'aérospatiale.wordpress.com. Je vais simplement mentionner, si vous n'êtes pas encore tombé là-dessus par un détour de circonstances quelconque, allez-y voir. Il y a Yannick Marcille du webzine Rat de Ville qui nous offre depuis quelques semaines déjà une très intéressante réflexion sur le point de vue économique des arts et de la culture de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment des réflexions extrêmement fouillées. Je ne pourrais pas vous les résumer en quelques minutes. Il faut vraiment les lire. Alors, j'ai mis le lien. Je vais mettre le lien, en fait, sur le blog vers le premier de cette série et je vous incite fortement à aller y faire un tour.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On s'en va en pause audio. On écoute, je veux dire les lettres SHPR, je vais le prononcer. Puis au retour, on discute avec Doyon Rivet. Vous écoutez toujours l'aérospatiale. On vient d'entendre un extrait de l'album Overtone de l'artiste polonais ou polonaise Laiko. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire si jamais vous voulez trouver les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier pour télécharger gratuitement les pièces qu'on écoute en cours d'émission. Vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Et puis aussi, si vous voulez, vous pouvez toujours aimer l'aérospatiale sur Facebook pour avoir un peu des nouvelles de l'émission. Parfois, on publie quelques communiqués, des informations sur les arts visuels. Alors voilà, la parenthèse est fermée. Et là, on fait un petit tour téléphonique à Montréal pour discuter de l'exposition « Doyon Rivet dévorait art vidéo » avec Mathieu Doyon. Bonjour.
Bonjour.
Et Simon Rivet, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci. Toi aussi?
Oui, ça va bien. Avec une aussi belle journée, je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est dur de ne pas avoir le moral.
C'est clair.
Question de base, là, pouvez-vous nous présenter un peu l'exposition que vous présentez à la bande vidéo?
Oui, bien, c'est une exposition qui présente trois courtes vidéos qui sont en fait des chorégraphies d'anagrammes dansées. Et qui sont accompagnées par une série de six photos tirées de ces courtes vidéos-là.
Et aussi, ce qu'on a, évidemment, tout ça dans une mise en scène particulière. On ne s'est pas contenté de faire une galerie avec des murs blancs. Et puis, on a aussi. Les vidéos sont aussi la particularité des visites de la vitrine de la bande vidéo dans la Côte d'Abraham.
Oui, c'est ça. Vous avez vraiment cherché à faire sortir un peu des murs puis à happer le passant là, qui passe sur la Côte d'Abraham, carrément.
Oui, c'est important pour nous que l'art soit accessible et que l'art se rende au public qui n'entre pas nécessairement dans les lieux de diffusion.
Et il y avait aussi cette volonté qu'on avait de partir parce qu'on travaillait en vidéo, on avait vraiment envie que ça soit facile à consommer.
Mais c'est ça, parce que quand même, l'art vidéo, c'est pas toujours évident, là.
Non, ça a été presque, en fait, le point de départ ou le moteur de ce projet-là, c'était une sorte de constat, que bien que ce soit un médium super intéressant, qu'on se rendait compte que plus souvent qu'autrement, il y avait quand même quelque chose d'assez aride dans les installations d'art vidéo, de long, de difficile. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est que on avait envie, nous, de faire un peu autre chose, un peu le contraire. On se disait que c'était pas obligatoire que ça soit aussi aride ou aussi difficile d'accès.
Oui, c'est ça. Je pense que j'ai lu dans Le Soleil, dans le texte de Josiane Deloche, qui parlait de votre exposition, que c'est une de vos amies qui est arrivée et qui a dit l'art vidéo, on arrive jamais au début, on comprend rien, puis finalement, on s'en va avant la fin. Là. Je pense que c'était ça à la base. Hein?
Même, en fait, c'est la fille d'un couple d'amis. Elle avait 12 ans et on trouvait que la vérité sortant de la bouche des enfants.
OK.
On est tous pareils. Je veux dire, on visite une exposition, par exemple, aussi le fun soit-elle, par exemple, un collectif. T'arrives aux vidéos, puis t'es déjà fatigué, t'as pas super envie de t'installer là 20 minutes en plus. Il n'y a pas juste une vidéo, il y en a deux, il y en a trois. Ça n'enlève rien à ces œuvres-là, mais c'est plus difficile genre, dans un contexte de galerie ou de musée là, à consommer.
Effectivement, dans ce cas-là, votre proposition est quand même assez rafraîchissante. Là. Il y a un côté ludique qui est très, très fort.
Ben oui, c'est ça. Mais il y a ça d'une part, c'est-à-dire qu'il y a la forme, mais il y a aussi le fond. C'est plus proche du genre d'art qu'on fait aussi. Donc, il y a toujours quelque chose, quand c'est pas drôle, hilarant, là, mais disons que c'est plus divertissant. On est plus, tout le moins en apparence, plus léger.
Oui, effectivement. Puis là, vous disiez tout à l'heure, bon, il y a des lettres, il y a des mots qui se forment. Là, je me rappelle, il y a « dominé » notamment, il y a quoi donc? Il n'y a pas « original ».
Ça, c'est toutes des anagrammes, dans le sens que c'est, mettons, on a cette interprète, cette danseuse, donc, qui porte chacune une lettre. Les lettres vont varier d'une vidéo à l'autre, mais bref, par exemple, la chorégraphie commence, il y a une première pause, et elle se place, et on voit, mettons, le mot « superbe ».
Ouais.
Ensuite, la musique recommence, il y a d'autres déplacements dans l'espace, et autre pause, c'est la même lettre, mais ça devient « pubère ». Ou « c'était génial », c'est devenu « inégal ».
Ben, c'est ça, ça devient un peu comme des critiques ironiques aussi de la vidéo. Tu sais, « génial » et « inégal », c'est quelque chose qu'on peut appliquer, justement, dans
les mots qu'on va porter. On voulait, évidemment, des mots qui soient un peu des antagonistes, et des mots qui réfèrent soit au monde de l'art, soit au monde un peu de la publicité, des affaires, ou des mots qui ont des significations fortes.
Des qualificatifs, bon, c'est peut-être moins le cas dans le cas de superbe et pubère, mais quand même des choses qui, sans s'opposer parfaitement, qui sont vraiment très, très différentes, comme par exemple dominé, endormi et moindre.
Oui. Où on a presque l'impression, pardon, je chat dans la gorge, on a presque l'impression de voir une chose, puis après, presque sa négation au bout du compte. Là.
Exactement.
Puis vous disiez, tout à l'heure, vous avez parlé de publicité. C'est vrai que votre travail, souvent, se situe près de la publicité. Ça ressemble aussi à une publicité, ce qu'on voit dans ces vidéos-là. Des fois, on dirait presque...
Ça ressemble dans une certaine mesure à des... en termes de format, évidemment. Ça ressemble aussi peut-être dans le style épuré. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus dérangeant, je dirais, qu'une publicité à proprement parler. Mais c'est
là.
Oui, mais en fait, vous en détournez le vocabulaire aussi, là, quand même.
Exactement, oui.
Puis, d'ailleurs, je parle de publicité parce que vous l'avez dit, c'est court. C'est combien de temps? Je pense que c'est 4 minutes au total. Hein?
Oui, bien, chacune des vidéos fait une minute quelques, une minute 15 à une minute 40. Donc, en tout et partout, on a pour un beau 5 minutes de vidéo. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens ont envie de les revoir parce que il y a tout plein de petits détails, il y a tout plein de comment dire, tu peux pas le voir juste une fois, je pense. Tu peux le voir seulement une fois, mais on a comme envie de rester pour les revoir, suivre une autre lettre, suivre le parcours d'une autre interprète.
Oui, c'est ça, voir l'ensemble, voir le détail. Regardez aussi, parce que les interprètes ont des expressions aussi, même la gestuelle est quand même assez expressive. Il y a un côté... moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté kitsch, un peu années 50-60 là-dedans. Là.
Oui, mais la musique est pour beaucoup, puis aussi le type de chorégraphie qu'on a, c'est bien sûr pas nous qui avons chorégraphié comme tel, mais on a quand même passé une commande assez précise à Sophie Breton pour créer des chorégraphies qui soient quand même assez ludiques et qui avec les costumes qui font un peu danse moderne ou même ballet jazz ou
ouais.
Maurice Béjart, ou en tout cas...
C'est Maurice Béjart, mais un peu plus cave quand même, là, faut se le dire. Parce que, tu sais, des fois, on aime bien aussi mettre, je vais dire, le spectateur, mais dans une... je dirais vraiment une forme de malaise à un certain point, parce que, oui, c'est sérieux ce qu'on fait, mais en même temps, on va pas nécessairement se coller à des canons, justement, de ce que devrait être une chorégraphie de danse contemporaine. T'sais, nos interprètes sont capables de faire 1500 fois plus que ce qu'on leur a demandé. C'est tellement drôle de les voir faire des trucs qui sont vraiment de base ou alors vraiment, il y a une scène où Sophie Breton se traîne à l'avant avec un large sourire, mais littéralement elle rampe par terre. Là, c'est pas on n'est pas dans la grande chorégraphie, mais c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est ça, puis ça ironise aussi. Moi, quand je voyais justement la femme qui se traînait par terre, tu sais, j'imaginais des fois, souvent, on a des images un peu de souffrance ou de lourdeur à travers leurs vidéos, et là, tu sais, la fille qui se traîne.
On était assez loin de ça dans cette vidéo-là, effectivement.
D'ailleurs, on a parlé de Sophie Breton qui a fait la chorégraphie, mais c'est toi, Mathieu Doyon, qui a réalisé la musique, je pense, à partir de pièces de big band des années 50.
Oui, ça a été un peu le point de départ là, des échantillonnages là, de musique de big band. Oui, les années 50, donc je prenais là, vraiment juste des... Je prenais jamais le thème central, mais plutôt l'intro ou le titre, un peu des amps, là, des transitions à l'intérieur d'une pièce. Mais ça donne toute cette couleur-là. Bon, j'ai rajouté, bien sûr, d'autres sons, du beat un peu plus actuel et tout, mais la base restait ces échantillonnages-là. Mais c'est de là qu'on est parti pour faire des chorégraphies. Moi, j'ai créé les musiques... c'est spécifiquement pour chacun des anagrammes, donc je savais que, mettons, génial, inégal, c'était en deux parties, ça me prenait deux pauses. Bon.
Ouais, ouais.
Et ensuite, Sophie a créé des mouvements là-dessus, ça s'est fait assez simplement et assez
efficace.
Oui, assez efficace.
voyons, j'allais poser une question. Oui, c'est ça. En fait, parce que là, on parle de la vidéo, mais il y a quand même les photographies aussi sur le mur. Il y a toute la question de la mise en espace d'une installation. Vous avez fait des murs d'une espèce de vert menthe, turquoise ou aqua, là. Je sais pas trop comment nommer cette couleur-là, la fausse plante. Donc, il y avait l'idée aussi d'intégrer la galerie, là, là-dedans, là, dans l'ambiance.
Oui, bien, c'est une préoccupation qui est de plus en plus présente d'être généreux un peu dans la mise en espace. Puis encore là, c'est à la fois ironique et sérieux dans la mesure où on adore les grands espaces minimales, là, c'est super. Là, dans ce cas-ci, c'est pas un grand espace, c'est un petit. Mais il y a quelque chose de sympathique, je pense, à venir un peu casser ça avec des éléments justement qui sont pas nécessairement sérieux. Par exemple, ce à quoi tu fais référence, c'est des murs qui sont verts, mais qui sont peints à angle. C'est-à-dire qu'il y a un triangle vert et un triangle blanc en fait dans un même mur.
Comme avec la séparation en diagonale. Là.
C'est ça, exactement. On a relié les coins, finalement. Et puis, ça donne vraiment un effet... en fait, on a dynamisé l'espace. Parce que, évidemment, pour ceux qui iront ou qui ont vu la galerie, est tout petite. Donc, évidemment, ça dynamisait tout ça. Et non, c'est super important, nous autres, de rendre ça vraiment aussi agréable. Cette partie-là est tout aussi créativement stimulante que la création des œuvres elles-mêmes.
Ben oui, parce qu'on entre dans la galerie, puis tout de suite, mais avant même de voir la vidéo, on a une idée un peu de ce qui nous attend.
Oui, bien, vois-tu, c'est qu'on a, ça fait quelques temps qu'on parle plus de l'expérience Doyen Rivet plutôt que de l'œuvre, dans le sens où, sans vouloir m'étendre sur cette partie-là, mais il reste qu'on veut vraiment donner un maximum à notre spectateur. Et même dans un petit espace tout petit comme ça, on essaie de vraiment rendre chacun des éléments le plus ludique possible.
Bien, c'est tout le temps qu'on a. Doyen Rivet, ça a fonctionné. C'était très ludique, très plaisant. Merci beaucoup à vous, Mathieu Doyon, Simon Rivet. Je le répète, l'exposition Doyon Rivet dévoré hors vidéo est présentée à la bande vidéo jusqu'au 14 avril. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin autour de l'exposition Rose Flamand et Grand Méchant Rouge sur les ondes de CKRL.
En collaboration avec le Bal du Lézard, CKRL présente Viva Zappa. Viva Zappa, le seul groupe québécois qui rend hommage à Frank Zappa. Viva Zappa, une soirée remplie d'humour et de musique. Extrait des disques parus entre 1965 et 1978. Viva Zappa, le spectacle bénéfice du Radioton 2012 de CKRL au Bal du Lézard le 31 mars.
Du 26 au 31 mars prochain, les Rencontres cinématographiques de Québec vous invitent à participer à une foule d'activités entourant le cinéma, les arts médiatiques et numériques. Classe de maître avec Philippe Falardeau, Pécha Coucha Cinéma et Nouveaux Médias. Présentation du film Le Combat Silencieux. L'actualité de la projection par Antitube et Vidéaste Recherché. Sans oublier les nombreuses activités professionnelles. Pour la programmation complète, rendez-vous au rcquebec.org.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontres culturelles branchées, art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
À ne pas manquer en mars à l'Amplique Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt.
Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau.
Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie.
Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron.
Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet.
La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard.
AmpliDeQuébec.qc.ca 88-977-9764.
L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par G. Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Présente Burlesquilar au Musée des Beaux-Arts. Burlesquilar propose un tout nouveau spectacle dans le cadre de la Nuit de la Création, le vendredi 30 mars. Venez assister à cette soirée spéciale où les filles de Burlesquilar, dans une thématique cinéma et Golden Age d'Hollywood, vous en mettront plein la vue. Un soir seulement, vendredi 30 mars, deux représentations à ne pas manquer, 21h45 et 23h45 au Musée national des Beaux-Arts. Entrée gratuite. Suivez-nous sur notre page Facebook Burlesquilar Cabaret Burlesque.
Devenu membre de CKRL ou faites un don pré-radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. $150 à la boutique Le Pédalier. $150 chez Sillon le disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com.
soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Vous écoutez toujours l'aérospatiale, Julie Gagné avec vous, accompagnée de Jacques Juniac à la mise en onde. On entame notre deuxième et dernière demi-heure de l'émission. D'ailleurs, je prends un petit temps pour vous dire qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Il y a quelques circonstances qui font que ça ne sera pas possible, mais on sera de retour en avril. Et oui, on sera de retour en avril, mais pour l'instant, l'émission quand même dure jusqu'à 18h30 et j'accueille Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Très bien, cette belle journée.
Oui. On sent l'espèce de joie de vivre dans le ton de tout le monde.
Oui.
Sous-jacente.
Oui, il n'y a plus rien de grave.
Oui, c'est ça, c'est le printemps. Dis-moi Catherine, tu es allée à la galerie Morgan Bridge
en fin de semaine. Oui, dimanche, au même moment que la marche familiale qui avait lieu. C'était vraiment en même temps, donc ça a fait une belle vitrine pour Morgan Bridge et puis Fanny Ménard, donc qui nous présente Rose Flamand et Versus Grand Méchant.
Ouais, j'ai fait la rouge. Tantôt, je l'ai dit.
Et donc, vraiment une découverte très agréable d'une peinture. C'est vraiment, c'est assez particulier parce que chez Morgan Bridge, on s'attend moins à un art plus traditionnel comme la peinture assez directe, sur toile ou sur panneau, et des formats monumentaux. Alors, surtout des grands formats, là, des très grands formats, c'est des 2 mètres et quelque chose un mètre.
Oui.
Et souvent, plusieurs tableaux, souvent des diptyques, là, 2 accrochés l'un à côté de l'autre. Et on est accueilli par une espèce de mur rose sur lequel on a placé les 10 tableaux des roses flamands en question. Et format assez impressionnant, surabondance de couleurs, de formes, de motifs. On comprend là, cette espèce d'amalgame ou d'agglomération de flamands, mais on est surtout très, je dirais, séduit par la peinture, le côté très gestuel de sa peinture, vraiment. Et donc, on s'approche, on essaie de découvrir ça. Je dirais, beau contact là, avec la matière et les transparences. Enfin, moi, j'étais vraiment embarquée comme ça. Puis là, j'en oubliais un petit peu le thème. D'un autre côté, je me retourne et là, c'est les loups, les grands méchants rouges qui sont en fait des loups et qui sont sur des fonds plutôt ternes, un peu verts, mais dont le rouge est plus ou moins apparent. Là. C'est une réflexion là, qu'il faudrait que j'approfondisse, que j'y retourne, mais c'est surtout la thématique du loup, un loup qui est comme couché, là, selon un loup qui occupe toute la surface aussi du tableau.
Vraiment très rapproché.
Oui, tout à fait. Puis c'est un loup qui est comme couché. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est mort? On peut vraiment supposer l'un ou l'autre. Et ce tableau de loup, il se répète en vis-à-vis, mais de façon opposée. Donc, si le loup a la tête en bas dans un tableau, l'autre a la tête en haut, comme ça. Alors, au départ, comme je disais, moi, j'ai été très, très marquée par la gestualité, puis toute la matière, les grands formats, donc l'expressionnisme abstrait là, auquel on peut référer. Et je me suis dit, bon, mais avec le titre aussi, est-ce que c'est vraiment plus le sujet et plus prétexte, finalement, à faire un projet formel? Ouais. Mais là, il faut dire non. Il faut dire non parce qu'il nous donne des indices. Hein? Il y a beaucoup d'éléments de signification, je dirais par les formats. Elle a fait des retables, vous savez, comme un triptyque, là, ce tableau d'église qui se referme et qui s'ouvre. Donc, on est même invité à les ouvrir. Donc, ces flamands sont représentés. Le carton d'invitation est fait comme un retable aussi. Donc, on ouvre comme ça, comme un espèce de triptyque. Donc, il y a une référence donc à l'art sacré. Il y a les diptyques au mur aussi qui peuvent référer un peu à cet aspect d'art sacré. Il y a même des petits tableaux qui sont en fait comme des crânes de flamands, qui sont vraiment tout petits et qui s'appellent Vanité.
Ah ouais, hein, mon Dieu, un gros lien avec l'histoire de l'art.
Oui, c'est ça. Donc, et puis, référence à la nature morte, à l'art sacré. Les diptyques, et puis bon, là, je suis là, OK, puis les animaux. Bon, alors, je me suis dit, mais ah, coudonc, les animaux là-dedans. Et puis j'essayais de voir, mais là, je voyais dans le communiqué qu'on nous disait que bon, le flamant rose, il a son côté kitsch habituellement, mais il y a un mur peint rose et c'est le seul élément kitsch que je dirais de cette expo qui n'est pas kitsch du tout, au contraire, et qui nous amène vis-à-vis quelqu'un là, qui maîtrise ses moyens tout à fait. Et donc, je suis allée voir un petit peu plus loin pour essayer de comprendre, au-delà des références populaires du flamant rose bonbon puis du grand méchant loup.
Oui, c'est ça.
Parce que je voyais la référence à l'univers populaire, mais pas dans le traitement, dans le titre essentiellement. Et finalement, je vais aller voir un peu sur son site, sa page. Et elle nous dit, entre autres, qu'elle a fait toute une série récemment sur les oiseaux morts. Toujours avec cette même approche, bon, toujours très gestuelle, la couleur.
Et matériel.
Très
aussi,
matériel,
hein?
Exactement. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai trouvé des citations. C'est qu'elle essaie de redonner une dimension charnelle grâce à la peinture. Donc, de prendre l'élément de la mort, le thème de la mort, et de le rendre vivant. Et
ouais, c'est ça.
Oui, puis même, je dirais, parce que c'est une peinture tellement vivante, tellement active, tu sais, c'est gestuel, on voit la dégoulinure, on sent le geste de l'artiste, donc il y a une trace de l'action du vivant qui est vraiment forte, avec comme en contrepartie un sujet qui évoque d'ailleurs davantage la mort.
Ouais.
Alors donc, elle redonne une force à cette peinture-là, parce que là, à un certain moment, je me suis demandé justement que c'était un prétexte, ce sujet-là, pour parler de peinture, faire de la peinture. Mais elle va plus loin que ça. J'ai l'impression est-ce qu'elle donne un rôle sacré à cette peinture qui redonnerait vie, dans le fond,
ouais,
à son sujet. En fait, il y a comme un lien à faire. Je choisis l'image de la mort pour conserver le vivant dans la peinture. Convoquer, pardon, le vivant dans la peinture.
Donc, ah oui, il y a quelque chose de presque rituel là-dedans. Là.
Bien, c'est ça, là. C'est comme de s'approprier, traiter le sujet de la mort pour réanimer. Parce qu'elle dit, en fait, dans le fond, c'est que ces images d'oiseaux ou d'animaux, elle les repique sur Internet. Donc, c'est des images photographiques. Et donc, c'est pour elle, c'est très, très mort. Donc, elle veut redonner vie à cette image fixe, figée, très. C'est plus l'image qui est morte que l'animal lui-même, je pense.
Okay, ouais.
Donc, c'est plus formel peut-être, mais il y a toutes sortes de référents comme ça, symboliques, assez forts. Et donc, elle a choisi aussi, parce qu'elle s'est très réfléchie, tout ça, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pris ses animaux, sa série d'oiseaux, elle a vraiment choisi, elle en fait, je pense, pour la galerie Morgan Bridge, là, vraiment cette série de flamands qui ramène au monde plus populaire et le conte du loup, en fait, la thématique du loup aussi, donc qui nous ramène plus dans cette côté, qui se rapproche plus peut-être à l'univers de Morgan Bridge, qui, dans le fond, qui traite plus des pratiques plus populaires. Et il me dit, là aussi, le propriétaire, que c'est une première que d'avoir une peinture plus traditionnelle comme ça, là, avec, parce qu'il faut dire que Fanny Ménard a comme une démarche assez sérieuse. Elle est rendue qu'elle étudie au niveau doctoral à l'Université du Québec à Montréal. Et elle est d'origine française, il faudrait le dire. Quand même, elle est parmi nous depuis 2008. Suite à sa participation au symposium de peinture de Baie-Saint-Paul.
Ah oui, elle est restée après. Puis...
Il semblerait. Alors, je n'ai pas tout le détail de l'histoire, mais enfin, c'est quelqu'un donc, qui est à découvrir, dont le travail m'a vraiment, vraiment plu. Et
mais moi, je veux juste faire une parenthèse, Catherine, en fait, parce que tu dis que c'est des diptyques.
Oui.
Il y a des diptyques. Puis moi, je vois beaucoup l'idée, justement, parce que l'exposition s'appelle « Les roses flamands versus les grands méchants rouges ». Donc, il y a cette idée aussi d'opposition entre une forme et une autre également. T'sais, l'opposition peut-être entre ce que le flamand va porter comme symbole ou comme image versus le loup également. Donc, j'imagine qu'il y a ça qui est très, très récurrent. Le triptyque aussi, le triptyque, le retable fermé versus ouvert également.
Oui. Mais ça aussi, c'est intéressant, en fait, c'est un peu le même, enfin, il y a une agglomération très, très, très dense lorsqu'il est ouvert, je pense, et quand il est fermé, un petit peu moins dense au niveau des oiseaux ou vice-versa, là, mais en fait, non, c'est ça, on est sur des pistes, on a toutes sortes de pistes de référents, c'est une peinture riche, là, qui peut nous amener vraiment à réfléchir à différents niveaux, là, et puis, mais aussi, je dirais, juste la maîtrise technique, la beauté de cette peinture, j'ai beaucoup apprécié. Je voulais te dire, en fait, elle était aussi, on retrouve, elle est comme artiste invitée à la galerie Michel Gaumont à Québec.
Michel Guimont?
Guimont, pardon. Je me suis trompée.
Pas de problème.
Non, oui, tout à fait.
Michel Guimont. Donc,
j'étais en France avec le cinéma, puis là.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, non, mais c'est le lien que j'ai trouvé pour aller repérer ses œuvres, là, puis voir mais aussi ouais. ce qu'elle faisait. Puis alors, enfin, parce que j'étais intriguée.
Donc, une personne à découvrir, à suivre.
Mm-hmm, absolument.
Ouais. Excellent. Ben, Catherine Boivin, merci beaucoup.
Bienvenue.
L'exposition Rose Flamand pardon, versus Grand Méchant Rouge de Fanny Ménard est présentée à la Galerie Morgan Bridge jusqu'au 8 avril. On s'en va en pause audio. On écoute Erasque sur les ondes de CKRL. Suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver les liens sur le site l'aérospatiale.wordpress.com avec la revue de presse et l'émission en balado-diffusion. Pour la dernière partie de l'émission, on se tourne vers le monde de l'estampe et on se dirige vers Engram avec Lise Vizina. Bonjour.
Bonjour.
Madame Vizina, vous présentez l'exposition « Tendre le tissu du temps » chez Engram, justement. Pouvez-vous nous parler un peu de l'exposition?
Oui, l'idée a démarré avec un simple son de boîte à musique. Et là, ça a tout déclenché un processus. Comment le faire vivre? Comment faire vivre l'émotion que moi, j'avais eue en entendant ce son-là, en regardant des images? Donc, ça a été une quête de boîtes musicales, spécialement des poudreuses musicales, comme signe de féminité, mais aussi d'identité féminine. Et aussi une collection de photographies féminines. Comme une rencontre avec des personnes qu'on peut croiser, donc un choix. Et avec ça, j'ai construit une installation.
Une installation qui prend la forme de, je ne sais pas comment dire, en fait, donc comme sur une plateforme. C'est comme s'il y avait des cubicules un peu ouverts avec les photographies, les poudreuses,
des motifs. Un échiquier, finalement.
Ah, ben oui.
Comme tendre le tissu du sang. Fait que la plateforme, c'est un peu comme un tissu qui se tend, sur lequel est posé un échiquier où 24 identifié 24 femmes, des lieux, des dentelles, des matrices, des impressions faites avec différents procédés en eau forte, donc la photogravure sur plaque de métal, de l'acier, du cuivre, pour la matérialité, pour des matérialités différentes et créer un univers.
Un univers à la fois cohérent, mais différent aussi selon ces 24,
oui.
24 femmes, 24 poudreuses. Là. Carrément. Bon, c'est une affirmation finalement. Je complétais ce que vous vouliez dire. Avec l'idée des photographies, l'idée de travailler les poudreuses musicales, parce que ça, il n'y en a plus là, de nos jours. Là. Est-ce qu'il y en a encore?
Non.
Sûrement pas.
Les miennes, j'en ai collectionné presque 100. Dans l'installation, il y en a 80 différentes, mais un petit peu comme chacun de nous. Ils ont toutes les mêmes compositions, finalement, mais dans leur fini, tout ça, sont différentes. C'est toutes des poudreuses avec le son. Il y a une bande sonore qui a été faite, mais justement, pour nous embarquer dans ce monde-là, tout tranquillement, et justement, pour faire une coupure dans le temps, que quand on rentre dans l'espace d'exposition, il y a comme un temps arrêté, avec le passé au présent. Mais ce n'est pas des commémorations nécessairement. C'est difficile à décrire finalement.
Se déplacer carrément dans un autre espace-temps. Là.
Oui, oui.
Puis à l'entrée de l'exposition, vous présentez un grand dessin.
Oui, c'est un grand fusain. En fin de compte, c'est la seule référence aux boîtes à musique, au mécanisme de la boîte à musique. Comme juste une entrée en matière, quelque chose aussi qui semble flotter. Encore dans un espace-temps un petit peu indéfini. Puis, c'est ça, les gens rentrent progressivement dans cet univers-là. Il y a plus d'une centaine d'images à regarder. Il y en a qui se répètent comme des effets miroirs. Dans ça, la matrice et l'impression qui se répondent finalement.
Puis, vous travaillez aussi, vous dites, bon, il y a les matrices. Ce sont des matrices, pour la plupart, qui sont en métal, si je ne me trompe pas.
C'est de l'acier.
C'est de l'acier.
Donc, c'est une démarche que j'ai entreprise il y a 3 ans. J'ai eu une classe de maître à Glasgow. Et là-bas, ils travaillent l'acier. Ici, j'ai commencé à expérimenter, mais dépendant de la composition de l'acier, il se passe toutes sortes de choses quand je les mets dans l'acide. Ils peuvent rouiller, les morsures peuvent être plus fines, plus denses. Ça me donne une matière vraiment différente du cuivre qui est beaucoup plus fine. Tous les visages ont été faits sur des matrices de cuivre, donc c'est très fin. On voit tous les détails. Aucun visage n'a été modifié. C'est dans la manière des superpositions, des couleurs qui fait vivre chaque visage selon ce qu'elle me parlait ou comment je voulais les faire revivre finalement.
Mais l'idée de travailler comme ça, vous dites, vous travaillez l'acier selon la composition, tout ça, j'imagine qu'il faut quand même apprendre à vivre avec l'accident puis en profiter, là, presque oui, l'espérer.
Oui, puis je pense que l'estampe, c'est le beau côté de la chose. On peut avoir une idée de ce qui va arriver, mais non, il y a toujours l'aléatoire. Mais la même chose quand on travaille, on imprime. Il se passe quelque chose à chaque fois selon la couleur, le papier. Les choses se révèlent différemment, puis on le redécouvre comme c'est un processus lent, c'est un processus de réflexion qui donne le temps. Puis en parlant de temps, ce projet-là a été échelonné sur 6 ans de réflexion, 3 ans pas de travail en continuité parce que j'ai fait d'autres projets, d'autres expositions à travers de ça, mais c'est tout ensuite de mon travail. Et puis, si je faisais quelque chose à côté, c'était comme pour trouver une réponse à ce projet-là. Donc, comme toute une finitude dans ces 3 années-là qui construit ce bloc-là.
Ben oui, puis finalement, la réflexion qu'il y a là-dedans, elle est sous-jacente à tout votre travail des dernières années, là, sur justement l'idée, je pense que je voyais un texte, j'ai oublié le nom de l'exposition que vous avez présenté, je crois, l'an dernier,
ou il y a 2 ans.
Les petites mains, voilà, sur l'idée aussi, bon, il y a la mémoire, il y a tout ça qui
est en train de là-dedans. La mémoire, le travail, aussi le travail des cas féminins, toujours aussi le rapport à l'autre, comment quand on regarde quelqu'un, il y a aussi comme dans mes images des fenêtres, des chemins où on ne sait pas trop où ils vont, des escaliers. C'est toujours par rapport aussi à l'être humain. Notre rencontre avec l'autre, comment on rentre en contact ou pas, ou quand on regarde quelqu'un, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard-là. Il y a comme toujours quelque chose à apprivoiser, un petit peu comme l'art, de toute façon.
Allez-y.
Oui, non, c'est bon.
Le tout se fait quand même de manière assez contemplative. Tu sais, je pense à une photographie, on va prendre le temps de la regarder. Même chose, la poudreuse musicale. Pour moi, tu sais, c'est la femme qui est assise devant son, sa coiffeuse, oui, en fait, oui. qui se prépare, mais qui prend le temps de la faire, qui s'arrête. Donc, il y a cette idée-là aussi, tendre le tissu du temps arrêté.
Oui.
Carrément.
Oui, rentrer dans l'intimité, finalement.
Oui, effectivement. Il y a une chose qu'on a plus ou moins abordée, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il y a des motifs qui se répètent dans l'exposition, mais des motifs qui vont prendre une ambiance et qui vont donner une atmosphère différente aussi, dépendamment d'où sont placés. Là, dans...
Oui, par rapport avec l'autre, par rapport à la couleur. Oui, entre l'œuvre imprimée et la matrice, déjà, il y a comme une réponse ou une contradiction qui se fait, là, parce qu'on souvent on peut pas figurer, ah tiens, c'était la matrice, ou la matrice devient objet de toute manière dans l'ensemble.
Oui, parce que là, c'est important pour vous, j'imagine, d'intégrer les matrices dans le travail. Qu'est-ce qui vous amène à les intégrer, justement?
Pour leur matérialité. Pour une autre forme de présence, pour une autre qualité, tout simplement. Et comme c'est un damier, ça représente vraiment la tuile aussi. Puis ce que je voulais créer, comme si on pouvait se promener, nous, si on devenait un petit personnage, finalement, on aurait pu se promener au travers de ça. Je vais oser dire comme au travers aussi d'un cimetière, où tranquillement on déambule et il y a comme un état de calme où les monuments sont beaux. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi.
J'imagine aussi dans l'idée que la matrice ne soit plus seulement un moyen, mais une œuvre à part entière.
Absolument. Travail. Un petit peu comme du sculptural.
Ben, Lise Vézina, merci beaucoup.
Merci bien.
Donc, l'exposition « Tendre le tissu du temps » est présentée chez Engram dans le complexe Méduse. C'est jusqu'au 8 avril. On s'en va en pause audio. On écoute la pièce « Overtone ». On vient d'entendre un extrait de l'album Overtone. C'est la pièce du même nom de l'artiste Laiko. Et c'est déjà l'heure de la fin de l'aérospatiale de la dernière émission du mois de mars. Comme je vous disais, on ne sera pas là la semaine prochaine. Mais par contre, vous allez voir, il y a de quoi s'occuper en masse d'ici le mois d'avril. Ça bouge et ça bouge et ça bouge. En art visuel, il y a toujours un moment du mois où il y a presque tous les vernissages, et bien c'est cette semaine, notamment jeudi prochain à 17h, vernissage de l'exposition de Charles Fleury à Regard. Et vendredi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est très important, jeudi 22 mars, c'est le quatrième 5 à 7 3D de la campagne du Cube, donc de la Chambre Blanche. Vous pouvez y aller, ça coûte 25 $. Les artistes invités sont Martin Bureau et Mathilde Chénin, qui sont en résidence dans le cadre du programme Géographie variable, et Stéphane Dufresne, qui est animateur 3D et développeur de jeux chez Sarbacane. Donc, c'est à la Chambre Blanche, jeudi, à 17 h. Sinon, ben vendredi, défilade de vernissage à l'œil de poisson, à vue, de 17 h, l'œil de poisson à 20 h. Et puis également, au lieu, est-ce que je me trompe? Je ne suis pas certaine. Vous pouvez toujours vérifier sur le site de l'aérospatiale. Sur ce, je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de CKRL.